voici. Le journal. Demandez-le le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info.
Du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir. Il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, on va vous parler de c'est moi
je
qui
sais
ai
pas,
les
j'ai pas de fil.
Hop, je vous envoie comme ça. On va parler de brève, on va parler
Ah mais c'est mon casque qui est pas bon. Ouais, on t'entend parler du coup.
De
Nino, l'été sera El Nino, l'été sera chaud.
Ensuite, on sera en France et la France qui souhaite continuer d'expulser vers l'Iran.
Et ensuite, on parlera du Burkina Faso, avec qui sont les assassins de karma.
Et ensuite, on aura notre rubrique Camion Info, et on va parler de pushback en Bulgarie.
Et on finira par un mineur blessé par balle qui témoigne.
Et on va commencer par les petites brèves.
Et donc, apparemment, c'est moi qui commence. Alors, en arrivant à la radio, je suis passé par la bourse, et j'ai constaté que la zone s'était transformée en poulailler. Mais ça va, un petit poulailler familial, quoi. Puis plus loin, en arrivant vers Hôtel de Ville, là, il y a un deuxième poulailler. Mais cette fois, on était sur un truc bien dimensionné, genre élevage des dômes, quoi. Mais un truc label rouge, avec plein de poulets qui couraient un peu dans tous les sens autour de l'Hôtel de Ville. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Et je me suis souvenu, c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel doit rendre son verdict sur le référendum auquel personne ne croit. Bon, du coup, si personne n'y croit, c'est parce que ces blaireaux de Socdem ont trouvé le moyen de le déposer avant la promulgation de la loi. Du coup, techniquement, la proposition de maintenir la retraite à 62 ans s'applique sur une situation où la retraite, c'est déjà 62 ans. Vous allez me dire, oui, mais maintenant la loi, elle est promulguée, du coup, c'est 64 ans. Et je vous répondrai, ouais, mais vous avez vu comme c'est des relous pointilleux, les gens qui font du droit. Du coup, ils en ont rien à foutre, et les vieux du Conseil constitutionnel ont refusé le référendum. Bon, alors, je dis qu'ils ont refusé le référendum, mais techniquement, comme je l'ai écrit ce texte à 18h25 et qu'ils devaient donner leur réponse à 19h, je suis pas sûr d'avoir raison. Mais du coup, bah, j'irai vérifier, et puis si c'est pas ça, je vous dirai que c'était pas ça.
Ah, disons que c'était bien celle-là. Moi, c'est une brève bien plus brève. Après des mois de division et de crise interne sur la réforme des retraites, les Républicains entendent se relancer. Et là, Éric Ciotti nous dit « Tout passera par les idées. Nous allons reconstruire pas à pas. Nous allons cheminer ensemble vers la victoire. » Tout passera par les idées. Ben, on peut craindre beaucoup de choses des prochaines élections. Vraiment, en vrai, c'est de toutes les prochaines élections. Mais il y a peu de chances que LR fasse partie des dangers qui nous menacent réellement.
Et alors moi, à 5 minutes de l'actu, je peux vous dire que le Conseil constitutionnel a rejeté la deuxième procédure de référendum d'initiative partagée.
Est-ce que je suis un fin analyste politique ou je suis pas un fin analyste
écoute,
politique.
On peut dire que tu vois, tu pourrais ouvrir un 36-15 voyance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la proposition de loi ne porte pas sur une réforme relative à la politique sociale de la nation au sens de l'article 11. Bon bref, voilà.
Et je vous avais dit, c'est le même argument.
Voilà, c'est ça. Donc en gros, tout comme avant, ils valident.
En gros, c'est vraiment des blaireaux parce que les types, il aurait suffi qu'ils attendent quelques jours pour poser leur proposition de référendum et cet argument tenait plus. Moi, je ne comprends pas trop le mouvement, mais ça. Mais ce qui fait que c'est encore à moi, je suppose, parce que je vois que c'est un. Ouais, ok. Alors, ouais, c'est encore une brève un peu. Je suis pas sûr qu'il vous en ait parlé hier. À vrai dire, je suis même pas sûr qu'il y ait eu des infos. À vrai dire, je suis même pas sûr que cette histoire de Canu du mardi ce soit vrai. Du coup, je vais vous faire un mini point, et au pire, on dira que c'est pour ceux qui suivaient pas. Et voilà. Alors du coup, hier en Polynésie française, et pour ceux qui suivent vraiment pas, la Polynésie française, c'est un tome. Enfin, non, ça c'est pour les vieux. Maintenant, c'est une collectivité d'outre-mer. Me demandez pas ce que le passage de l'un à l'autre a changé. J'en sais rien. J'ai jamais rien compris aux subtilités du droit colonial. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les collectivités d'outre-mer, elles ont des assemblées, et assemblées qui ont des pouvoirs assez étendus. En gros, pour le dire vite, l'État colonial garde la justice, les affaires étrangères, l'armée bien sûr, la sécurité, et c'est à peu près tout. Et du coup, tout le reste est géré localement. Il se trouve que dimanche dernier, c'était les élections, et que c'est le parti indépendantiste Tavini, qui est l'héritier du FLP, donc le Front de Libération, et pas de la Palestine, mais de la Polynésie, les petits malins, de Oscar Temaru. Oscar Temaru, il dirigeait l'île pendant, je crois qu'il a fait 5 mandats, et là ils étaient plus au pouvoir depuis une dizaine d'années, et c'est eux qui ont remporté les élections cette fois. A priori, l'indépendance ne devrait pas être pour autant pour tout de suite. La jeune garde du parti, donc qui sont ceux qui ont le pouvoir dans le parti, quoi, est plutôt pour une trajectoire d'indépendance un peu longue, notamment en s'appuyant sur l'ONU, qui, rappelons-le, demande à la France la fin de toutes ses colonies. Sauf la Corse, peut-être, je suis pas sûr pour la Corse.
Est-ce que c'est vraiment une colonie?
Ok, on va pas annoncer ce débat, sinon il va y avoir un attentat à Radio Canu. Voilà, en tout cas, il compte sur l'ONU pour obtenir des conditions pas trop dégueulasses pour l'éventuelle indépendance ou pour une départementalisation. A priori, c'est les deux trucs qui sont dans les tuyaux pour les indépendantistes. Voilà, et il est probable que ce mandat-là soit plutôt orienté sur des réformes sociales, sachant que le taux de pauvreté sur l'île, enfin sur les îles plutôt de la Polynésie, est de plus de 30%.
Alors, figurez-vous que pour le tribunal de Bordeaux, c'est officiel, être dans la rue au moment d'une manif, c'est faire preuve d'une imprudence fautive. C'est pour cette raison qu'une dame qui s'appelle Sophie Lacaille, qui traversait la bonne ville de Bordeaux un jour de manif de gilets jaunes, et qui malheureusement a pris une balle de LBD dans la nuque, mais quand même elle avait une grosse écharpe, grosse doudoune, grosse machin, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée un peu bousillée de la tête, mais quand même complètement vivante. Cette Sophie Lacaille est reconnue responsable de sa blessure à 25%. Sophie Lacaille avait d'abord porté plainte au pénal, ce qui n'a rien donné parce que, devinez, on n'a jamais pu identifier le flic qui avait tiré.
Oh, c'est pas vrai.
Oui, incroyable. Alors, elle a tenté le tribunal.
Attends, mais pourtant, je croyais que si les RIO n'étaient pas obligatoires, c'est parce qu'on pouvait tout le temps retrouver
tout le temps les identifier, tout le temps, sauf exceptionnellement, généralement, quand on les cherche.
Sauf pour leur donner des médailles.
Oui, mais c'est ça, c'est qu'on l'a pas identifié, mais c'est possible qu'il y ait de l'avancement quand même parallèlement, et bon bref. Donc Sophie Lacaille a alors tenté le tribunal administratif pour dire bah l'État est un peu responsable quand même, et c'est là qu'on lui a dit bah, ma bonne dame, si vous sortez dans la rue aussi, il faut pas vous étonner, le boulot de la police c'est de tirer, c'est pas non plus de faire attention à sur qui elle tire. Et du coup, puisque apparemment personne ne parle de cette une du Progrès aujourd'hui sur... Ah.
Non, vas-y, j'allais en parler en bref, mais vas-y.
Sur le fait que les Black Blocs sont constitués de gens qui sont des assassins potentiels de flics, et ben on se demande un peu quand même de quel côté sont réellement les assassins potentiels.
Ah, et du coup, je l'ai pas fait en bref, mais il y a quand même un policier qui s'est retrouvé blessé et qui sera peut-être paralysé à la fin, donc qui risque d'être le policier le plus blessé.
Le martyr de la police.
De tout le mouvement contre les retraites. Et c'est une grenade de désencerclement de la police qui l'a blessé. C'est dommage.
C'est que c'est vraiment dangereux ces trucs.
Ouais, c'est dangereux. Et pourtant, il avait son armure en plus.
Et bah, il y avait du coup, comme tu parles de la une du Progrès, quand même, on peut faire une spéciale dédicace hein, quand même, à cette une magnifique qui, quand même, lit la déclaration du DDSP, là, le directeur départemental de la sécurité publique, où c'est lui qui dit que le Black Bloc est constitué d'assassins potentiels. Et en gros, il reprend les éléments de langage du gouvernement qui ont lieu depuis le 2 mai, où ils disent qu'effectivement les Black Blocs seraient prêts, sont là pour en gros tuer du flic, qui a priori n'a pas été démontré comme aucune arme.
Les Black Blocs, c'est ça, ont l'air particulièrement mauvais, parce que depuis le temps, ils auraient pu réussir à en buter un ou deux.
C'est ça, et à donc, Paris, apparemment, ils étaient plusieurs milliers, et ils s'y sont mis à plusieurs milliers pour tuer zéro policier.
Voilà.
Il a fallu que ce soit un policier qui jette sa grenade sur un collègue pour qu'il y ait un blessé grave. Du coup, vous êtes des gros nuls, les Black Blocs. Voilà.
Et quand même, cette une est donc liée. Donc, ça, c'est le gros titre. Et quand même, le chapeau en haut de cette une, du Progrès, c'est, je cite, un chien policier attaque par erreur une femme de 98 ans. Donc, c'est-à-dire que, a priori, même les chiens de flics sont plus hargneux que les vieilles dames.
Et du coup, on blague, mais après, je vais sûrement être obligé de faire une brève du même genre, mais sur une loi dégueulasse qui s'appellera une loi anti-casseur. Mais aujourd'hui, on va plutôt faire le Sénat va lancer une enquête sur le fonds Marianne. Alors, si on ne dit pas de bêtises, on vous en a déjà parlé, en tout cas, c'est ce que les collègues disaient quand on en a parlé. C'est un fonds spécial qui avait été créé suite à la mort de Samuel Paty pour lutter contre la radicalité, la radicalisation, le radicalisme, enfin, pour lutter contre les musulmans qui veulent pas se cacher, quoi. Et comme si ça n'avait pas suffi que ce pauvre monsieur a été totalement lâché par sa hiérarchie en amont de l'histoire, on apprend récemment qu'en aval, une partie de la sphère laïcarde...
Vas-y.
Qu'une partie de la sphère laïcarde s'était essuyé les pieds sur son cadavre en faisant un peu n'importe quoi avec son pognon. Le pognon du fonds d'investissement.
Oui, parce que le pauvre Samuel, il avait un peu de noir,
il n'y avait pas de quoi aller très loin, à moins que, on ne sait pas. Enfin, pour vous dire le genre de n'importe quoi qu'il y avait, il y a un extrait qui circule là ces derniers jours, qu'on pourrait qualifier d'antisémitisme à tendance climato-sceptique ou de climato-sceptisme.
Un extrait de quoi ?
Un extrait d'un des trucs qui a été produit avec ce fonds Marianne, qui est une espèce de vidéo. Alors, c'est un peu. Ils sont trois autour d'une table, alors il faut imaginer une table avec une nappe à carreaux. Je crois que ça s'appelle À la bonne franquette ou un truc comme ça, l'émission. Enfin, en tout cas, le nom fait penser à un truc comme ça. Moi, j'ai retenu ça à cause de la table à carreaux. Et voilà. Et donc, ils sont trois en train de discuter, un peu comme nous, mais avec. Je crois qu'ils ont eu 230 000 euros pour faire ça. Et du coup.
Nous, on les aurait jamais, je suis sûr.
Bah, nous, surtout, on tient 25 ans avec 230 000 euros de financement.
Bah, bien sûr.
Mais bon, eux, ils ont tenu, je crois, une trentaine d'émissions. Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et donc, l'histoire, c'est qu'en gros, c'est un espèce d'antisémitisme sur le fond de climato-scepticisme ou l'inverse. On sait pas trop. En gros, les écologistes, ils essaieraient de nous casser les bonbons, appuyés par... Attention, ils nous ont ressorti Cohn-Bendit, quand même. Alors, celui-là, je pensais qu'il... Enfin bon, c'est pas grave. Cohn-Bendit et George Soros. Alors, George Soros, c'est la passion de tous les antisémites, notamment américains, mais aussi d'Europe de l'Est, à cause des campagnes de Orban, si je dis pas de bêtises, qui avait beaucoup appuyé là-dessus.
George Soros, c'est un milliardaire qui finance des trucs.
Un milliardaire libéral.
Oui, c'est ça, qui finance des trucs de gauche,
progressiste, un peu partout,
mais qui est juif.
Et donc, et qui était accusé de vouloir recoloniser. L'Europe,
c'est
de grand remplacer l'Europe.
C'est la théorie du grand
c'est
remplacement.
C'est ça, c'est de dire qu'ils financent.
Une des théories du grand remplacement, bref. C'est ça. Et donc voilà, en tout cas, ils ont ressorti ce truc. Donc on rappelle, c'est censé être des trucs pour lutter contre la radicalisation. Hein. Et voilà. Et donc on apprend aujourd'hui, donc ça c'était pour vous faire un peu de contexte. La semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, on a appris que Hidalgo portait plainte parce que dans une des émissions en question. En pleine élection municipale, ils en profitaient pour la dégommer. Alors en plus, à base de gros trucs de beauf, de genre hashtag ça cache Paris, hashtag regardez, il y a des poubelles dans ma rue à Paris, c'est vraiment horrible.
Tout
quoi.
Ça, encore une fois, payé avec des thunes de ce fonds Samuel Paty.
Un fonds Samuel Paty, enfin un fonds Marianne du coup, mais créé pour Samuel, enfin suite à la mort de Samuel Paty, soi-disant pour lutter contre le radicalisme. Et on apprend aujourd'hui que le Sénat a quand même trouvé que c'était un peu abusé et du coup la commission des finances du Sénat demande une commission d'enquête sur l'attribution et surtout sur l'utilisation du fonds Samuel Paty, enfin du fonds Marianne.
Et alors, vous avez aimé l'été 2022, la bronzette. Bon, l'été, c'est normal d'avoir un peu chaud, tout ça. Des fois, il y avait certains bleds où c'était un peu compliqué d'avoir de la flotte. Eh bien, vous devriez adorer l'été 2023.
Ouais.
Alors, c'est pas neuf, hein, ce que je vous dis là tout de suite, mais c'est juste que finalement, c'est un cran au-dessus de ce qui était prévu.
Ouais.
On s'en doutait déjà, hein, on entend parler de cette histoire de sécheresse depuis l'automne, puisque finalement, il y a quand même plein d'endroits où il n'a jamais fait une pluie un peu sérieuse depuis l'automne. Personne croyait trop que ça allait s'améliorer. Alors personne, sauf peut-être le ravi de la crèche qui est à l'Élysée là et qui aurait pu prévoir tout ça. Mais l'Organisation météorologique mondiale prévient aujourd'hui que ça sera sans doute pire, voire bien pire que prévu. C'est que le gamin va s'en mêler. Le gamin El Niño. Donc El Niño, c'est un phénomène climatique particulier qui a des bonnes chances de se produire à l'été 2023 et à l'été 2024. 60 à 80% de chances d'après l'Organisation météorologique mondiale. Ce phénomène météo naît du réchauffement climatique et qui en aggrave les conséquences. Donc voilà, il risque de se produire.
Alors, quand tu dis des chances qui se produisent, on...
60 à 80%
c'est ça.
De chances. Et du coup, c'est quoi El Niño ? El Niño, c'est un réchauffement de l'océan Pacifique tropical. C'est vraiment un truc, c'est un truc qui se balade partout autour du monde. Et ce qui se passe par ici entraîne des conséquences là-bas. C'est une sorte de chaîne, vous allez voir. Donc d'abord, réchauffement de l'océan Pacifique tropical, le long des côtes de l'Amérique du Sud, avec affaiblissement ou disparition des alizés. Les alizés, c'est une sorte de vent. Alors, conséquences en cascade. Les eaux frontalières de l'Australie et de l'Asie deviennent plus froides. Me demandez pas d'expliquer pourquoi, je suis pas non plus météorologue. Ça provoque des sécheresses, ça provoque des ouragans qui se forment au milieu du Pacifique. Les eaux de la côte américaine, elles, se réchauffent et ça entraîne une hausse des précipitations. Donc, le retour d'El Niño, si réellement il a lieu... va affecter le climat mondial dans son ensemble et risque d'alimenter un nouveau pic des températures mondiales, d'après le secrétaire général de l'OMM. Mais toutes les régions, bien sûr, ne seront pas touchées de la même manière. Alors, c'est quand même pas qu'une histoire de « les pauvres, ils vont plus s'en prendre plein la gueule », puisque les ricains, globalement, du nord, enfin du sud, mais aussi du nord, franchement, on préfère être en Europe, là. Les pluies torrentielles et les chutes spectaculaires de neige qu'on a vues en Californie cet hiver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu quelques jours un peu dingue là. Alors en réalité, ça pourrait être vachement plus intense l'année prochaine. En Amérique du Sud, le phénomène pourrait provoquer des inondations au Pérou ou en Équateur et des épisodes de sécheresse par contre en Colombie notamment. Un déficit d'eau dans certains pays d'Amérique centrale et du Sud devrait aussi assécher gravement la forêt amazonienne. Bon, la forêt amazonienne, on sait qu'elle a aussi une sorte de petit rôle mondial un peu. D'autres régions du monde, El Niño pourrait amplifier les sécheresses, les vagues de chaleur intenses et les incendies un peu partout. En Inde, par exemple, la mousson pourrait être affaiblie. Et alors en Inde, si on se rappelle un peu de nos cours de géo du collège, on se rappelle qu'en Inde, la mousson, c'est un peu important pour globalement beaucoup de choses dans le pays, entre autres et en particulier l'agriculture, vu que l'Inde n'est déjà pas un pays où l'accès à la nourriture est forcément hyper facile pour tout le monde, bah là ce sera juste encore vachement plus dur. L'Australie connaîtrait un climat beaucoup plus sec, faisant craindre une saison de feux de brousse particulièrement destructrice. La période de transition à l'arrivée de El Niño pourrait aussi provoquer inondations d'un côté, mais aussi sécheresse dans la corne de l'Afrique. La France ? Eh bien, en France, alors l'Hexagone précisément, la métropole, sera sans doute moins exposée au phénomène, puisque c'est un phénomène quand même bien plus pour les régions tropicales et subtropicales. Alors, moins exposée, ça ne veut pas dire pas exposée du tout, hein, non plus. Mais en tout cas, ça signifie surtout que certains territoires d'outre-mer, c'est-à-dire les colonies, c'est-à-dire celles dont tu parlais tout à l'heure, là par contre ça pourrait être carrément plus dur. Et puis comme on sait que c'est des endroits où de toute façon déjà actuellement il n'y a pas de service public ni rien, on sait aussi que s'il arrive malheur, il y a peu de chances que ça soit vraiment les impôts des métropolitains qui aillent les aider beaucoup. Avec El Niño, la Terre pourrait franchir temporairement dès 2024 la barre symbolique des plus 1,5% de degrés, 1,5 degré par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire, on se rappelle bien, 1,5 degré en plus, c'est ce que l'accord de Paris en 2015 avait fixé comme limite à ne pas dépasser d'ici la fin du siècle. Bon, cette limite, finalement, elle risque d'être passée avant même qu'on ait fait un premier quart du siècle. Il faut dire que la manière dont les politiques publiques mondialement, entre autres en France, sont volontaristes sur le sujet, ça fait que ça ne nous étonne pas que ça aille tellement vachement plus vite. Mais en fait, s'ils avaient dit 1,5 degré à l'accord de Paris en 2015, ce n'était pas complètement un hasard. C'était parce que 1,5 degré, c'est comme une sorte de point de bascule au-delà duquel les risques d'inondations extrêmes, de sécheresse, d'incendies de forêt et de pénurie alimentaire pourraient augmenter considérablement. Bon, ça c'est 2023, mais en réalité, si El Niño arrive, il y a des bonnes chances qu'il nous fasse 2023 et 2024. C'est un truc, il arrive comme ça, il reste 2 ans, 3 ans, puis après il se rebarre et puis après il revient. Donc là on a un gars qui est scientifique de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur les incidences du climat, qui pense lui que l'été 2024 sera certainement le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. Certains modèles climatiques internationaux évoquent aussi la possibilité d'un super El Niño en 2023. Le dernier du genre en 2016 avait contribué à porter les températures mondiales au niveau le plus élevé jamais enregistré. Il a également été associé à des inondations en Amérique centrale, au retard de la mousson en Inde, à des épidémies de choléra et de dengue en Afrique. Et je ne vous parle même pas des conséquences politiques, sociales, conflictuelles, de guerre, de migration, de bordel comme ça.
Faut que ça sache.
Ah, j'ai mis une petite incise parce que ça pourrait rentrer dans une chronique. Faut que ça sache, mais on en a pas. Bref, alors que le pouvoir iranien continue de réprimer dans le sang le mouvement révolutionnaire déclenché après la mort de Mahsa Amini, la France continue de distribuer dans la plus grande des décontractions des OQTF à des personnes iraniennes. Alors même si Darmanin avait assuré devant le Sénat en janvier que personne ne serait expulsé vers l'Iran, c'est vrai qu'il n'avait pas précisé jusqu'à quand. Peut-être que sa promesse est donc périmée aujourd'hui. C'est en tout cas depuis début avril que les cas d'Iraniens et d'Iraniennes conduits en centre de rétention se multiplient. Le 15 avril, par exemple, un couple d'Iraniens était enfermé au centre de rétention administrative de Toulouse alors qu'ils souhaitaient se rendre en Angleterre. Et c'est la décision du JLD qui leur fera retrouver leur liberté. Et le 23 avril, une autre personne iranienne a été conduite dans le même centre de rétention de Toulouse, libérée, elle, pour des raisons de santé. Alors pour ces trois personnes, leur libération n'est qu'une demi-libération, car non seulement bon, elles ont été placées en centre de rétention, mais loin de considérer ces placements comme des erreurs, les autorités se sont tournées vers le consulat d'Iran dans le cadre de la procédure d'expulsion pour demander des documents sur les personnes. Or, dévoiler le nom des personnes ayant fui l'Iran en ce moment, mais ces personnes, ainsi que leurs familles et leurs proches, dans une situation extrêmement dangereuse. Alors je ne sais pas s'il est prévu dans le cadre de la procédure d'asile une clause attribuant l'asile quand l'État accueillant, entre guillemets, divulgue l'identité et met en danger sciemment la vie des personnes venues trouver refuge sur leur sol, mais on l'espère.
Canu Info du mercredi.
Et on part au Burkina.
Eh ben on part au Burkina, puisqu'on sait bien que je vous fais une sorte de petit feuilleton Burkina, et généralement...
On s'était tous retenus de se moquer.
C'est ça.
C'est rarement une bonne nouvelle quand même.
Mais ouais, c'est rarement une bonne nouvelle pour les gens qui sont au Burkina. Alors là, le 20 avril dernier, dans un village qui s'appelle Karma au Burkina, des hommes habillés en militaire sont arrivés et ont massacré 147 personnes. La tuerie a duré 7 heures. 147 personnes, dont une cinquantaine, je crois, d'enfants. Donc, vous avez bien entendu, ces gens qui sont arrivés et qui ont buté tout le monde étaient habillés en militaire d'après les rescapés de cette tuerie. Alors, le gouvernement et une partie de la presse du pays, c'est la partie de la presse qui a trouvé qu'il y avait besoin d'aucune enquête pour arriver à des conclusions, affirme que les hommes en question étaient évidemment des djihadistes déguisés en militaire. Sauf que cette évidence n'est pas non plus si évidente que ça. Une autre partie de la presse a plutôt l'air, assez inquiète. Alors part un peu du principe que oui, vraisemblablement c'est des djihadistes, parce qu'on ne pourrait pas soupçonner l'armée de faire des choses aussi horribles. Mais enfin, elle a pas l'air si... elle trouve quand même que ça serait nécessaire d'avoir une vraie enquête et de vraies réponses. J'en cause souvent, alors je vais re-résumer le Burkina les dernières années, son rapport avec le terrorisme, la sécurité, les militaires, tout ça. Au Burkina, en 2014, il y a eu une sorte de révolution. On pense que le président précédent avait un deal avec les djihadistes qui faisait que les djihadistes ne l'attaquaient pas, mais depuis 2014, les djihadistes se sont mis à attaquer le Burkina, à tuer énormément de monde, en particulier dans le nord du pays, à vraiment arriver dans des villages et massacrer tout le monde. En fait, ce qu'ils veulent, c'est vider la zone pour faire du narcotrafic, puisque c'est une zone où il y a trois frontières. En 2015, un gouvernement a été élu, un président a été élu, puis il a été réélu, mais il n'a jamais réussi à être efficace dans la lutte contre ces terroristes. Et du coup, les gens n'ont pas été bien contents. Il y a eu des manifs qui ont amené un premier coup d'État. Le gars qui est arrivé au pouvoir à la suite de ce premier coup d'État, ma foi, n'a pas fait mieux dans le truc de la lutte contre les djihadistes. Un deuxième coup d'État a eu lieu à son tour. Et c'est maintenant le capitaine Ibrahim Traoré qui est au pouvoir. Ça va toujours pas mieux du point de vue du terrorisme. Mais par contre, celles et ceux qui s'en prennent plein la gueule depuis ce deuxième coup d'État, c'est moins les djihadistes que les opposants, la presse. Et de plus en plus, ma foi, des villageois qui sont soupçonnés, et souvent soupçonnés uniquement à cause de leur appartenance ethnique, d'être complices des djihadistes. Ils se racontent au Burkina que beaucoup de djihadistes sont peuls, et certains en concluent que les peuls sont des djihadistes. Et donc parfois, ça peut être, en tout cas ce qui est sûr et avéré un certain nombre de fois, c'est que des milices de village qui ont eu des embrouilles avec les djihadistes se tournent vers le village peul d'à côté, y vont et butent des gens, quoi.
Et c'est quand même assez ancien que la minorité, c'est peut-être pas une minorité, mais en tout cas que les peuls sont discriminés au Burkina ou dans la région, quoi.
C'est clair. Bah oui, c'est un peu comme si en France on considérait que c'était les Roms ou les Gitans qui étaient des djihadistes et qu'à chaque fois qu'il y a un souci avec des djihadistes, les gens allaient buter des Gitans et des Roms.
Je leur donne pas des idées.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, pendant ce temps, les vrais djihadistes, eux, ils continuent les massacres. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé à Karma ? Eh ben, ma foi, on n'en sait rien. Personne ne peut être sûr de rien. Mais c'est ça. Alors, par exemple, ce journal, l'Observateur Palga, que je cite souvent, écrivait un article qui s'intitule « Massacre de Karma, il y a urgence à laver l'honneur de nos soldats ». Et ils veulent dire « à laver l'honneur par une enquête ». Sauf que, voilà, eux, ils sont pas aussi persuadés qu'ils devraient l'être. Et sous ce titre, à un moment, l'article dit « Si c'est effectivement l'ennemi qui s'est rendu coupable de cette boucherie, comme semble l'indiquer le pillage des biens, puisque les militaires, eux, ne pilleraient pas les biens d'après ce raisonnement, et que l'ennemi veut faire porter le casque lourd par nos militaires, il est impératif que les enquêtes viennent l'établir de façon formelle et indiscutable. Il y va de la préservation de l'union sacrée entre nos populations et notre armée. Mais si par malheur, et nous n'osons même pas l'imaginer une seconde, il s'avérait que ce sont nos troupes qui, pour une raison ou pour une autre, sont responsables de cette forfaiture, il faut aussi que ça se sache et que toutes les conséquences disciplinaires et judiciaires de cela soient tirées. Car rien ne saurait expliquer, encore moins justifier, un tel déferlement de violence aveugle. Pas même les allégations selon lesquelles les habitants de Karma seraient complices de terroristes qui, le 15 avril dernier, ont tué 34 VDP et 6 FDS. Alors les VDP, c'est les volontaires pour les défenses de la patrie, c'est des sortes de supplétifs de l'armée, de milices, quoi. Et les FDS, c'est les forces de défense et de sécurité, c'est l'armée, au cours d'une attaque contre un détachement mixte dans les environs de Waiguya. Ce qu'on apprend dans cet article, ce qu'on apprend incidemment dans ce paragraphe, c'est que les habitants de ce village étaient d'ores et déjà soupçonnés d'avoir aidé les terroristes. Alors soupçonnés, ça veut juste dire soupçonnés, et en tout cas, c'est certainement pas les enfants qui se sont fait tuer dans le dos de leur mère ce jour-là qui auraient aidé les terroristes. Pour les rescapés, en tout cas, l'identité des tueurs ne fait absolument aucun doute. Et eux, ils ont tenu une conférence de presse quelques jours après à Waiguya, puisque Karma, c'est un village, mais c'est un village qui est tout près d'une grande ville. Et du coup, eux, ils se sont repliés sur cette grande ville. Et là, ils ont tenu une conférence de presse dans laquelle ils disaient qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Ils ont été beaucoup énervés parce que le gouvernement a fait paraître un communiqué de presse dans lequel il disait que, oh là là, des terroristes avaient attaqué ce village. Le communiqué de presse se trompait sur la date, par exemple. Et eux, ils étaient très énervés contre ce communiqué de presse parce qu'ils n'ont absolument aucun doute sur le fait que c'est effectivement les FDS, c'est-à-dire l'armée. Le média en ligne lefaso.net, qui a quand même pour le coup, tendance depuis ce deuxième coup d'état militaire à beaucoup soutenir le nouveau pouvoir, Lui parle par exemple de présumée rescapée. Il donne le témoignage d'une présumée rescapée. Alors qu'est-ce que ça veut dire précisément une présumée rescapée ? On se rend bien compte que le terme est un peu, je veux dire, elle est vivante. Il y a d'autres gens qui sont morts. Elle était avec eux.
Forisson dans le texte.
Rescapée. On dirait du
forisson. Dans le texte.
Ça ressemble un peu à du forisson. Ouais. C'est un peu ça. Et voilà, bah, et, alors sur la manière dont le président Burkina se sent par rapport à ce truc-là, le président de la CDAO, qui est, vous savez, la CDAO, c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui est une communauté d'États avec une présidence tournante. Et le président actuel a tweeté à propos de ce qu'il a appelé le génocide de Karma. Alors, le terme de génocide, effectivement, c'est un terme qui a une signification juridique précise qui semble pas, en l'occurrence, être complètement adapté. N'empêche qu'à ce moment-là, le gouvernement burkinabé a répondu, et il n'a pas. Et alors que normalement, le pays où la tuerie a eu lieu est plutôt. Je veux dire, si c'était les terroristes, on imagine que le pays en question trouve plutôt que, bon, bah oui, on va prendre le terme génocide et puis on va dire c'est vraiment scandaleux ce que font les terroristes. Non, là, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont contesté vertement le terme de génocide. Bien trop vertement, finalement, pour quelqu'un qui ne se sentirait pas du tout impliqué dans cette tuerie.
Et on va se faire une petite pause musicale et on va écouter Fils du béton avec 22-22, 17-17.
Vingt-deux, vingt-deux, v'là l'équipe de France n'est plus. Pour une chasse au canard comme 40 bleus. Gyrophare et crissement de pneus. Fonce de Ricard et tête de nœud. C'est Califrate, c'est le chant des plaques. Soit on fait le bisou, Judas à la Pâque. Insulte raciste et coups de matraque. Qu'est-ce qu'il dit l'agent? Il dit écoute ma carte. Tu vides tes poches, il vide son sac. Vous les noirs, les arabes, vous puez, vous êtes tous sales. Police nationale, c'est du joli. Patrouille au whisky dans les rues la nuit. L'autre qui dit qu'il a fait l'Algérie. Et qu'en revenant il a failli ouvrir une boucherie. Voir Alger et mourir. Voir Roissy et mourir. Vivre dans le quartier et mourir. Ok, le préfet a des chiffres à fournir. Mais le quartier a besoin de se nourrir. Je vous présente l'inspecteur la torture. Et puis son collègue l'inspecteur la bavure. Au commissariat, entre les murs. Qu'est-ce qu'a fait la République? Bête à base dure. Au fait, je voulais demander. Ils font du camping, les CRS. Sur les parkings de nos tests. Ça sent bizarre dans le secteur. Ça sent la racaille grillée aux tasseurs. Mais qui nous protège de des bleus. Quand l'un d'eux a trop bu et devient trop nerveux. J'ai la grime, Malek ou Sekine. Je dédicace à toutes les victimes et Sekine. 22-22, balade vers les bleus. 17-17, sort la nisette. De 22 et bève là les bleus. Ça le descend dans le quartier des lépreux. Qui joue les cow-boys armés. On n'a pas buté le shérif ou l'adjoint comme Bob Marley. Tu veux un cliché, on n'aime pas la police. Comme chaque jour leur syndicat nous vomisse. Au petit matin perquise. Faites pas de mal à mon fils chéri. Retourne dans ton pays. Allô. Vous avez demandé la police. Allô. On s'appelle tous Aïssa Habib ou Amadou Diallo. Safari au Mirail à Mante la Jolie. Balle trap au flashball. Dans le dos ça fait mal. Les traîne dans la cube, à la recherche de keps, de quêtes de cubes, à l'intérieur des culs. La racaille, elle est têtue, elle nous jette des queues trues. Au lieu de nous souhaiter la bienvenue, ça sent la bévue. Pour ce prévenu, des fois l'état assassine ni vu ni connu. Face à terre, mais qu'est-ce que tu vas faire à part te taire ou insulter leur mère? Les bleus nous détestent, c'est pas un rêve. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent que tu crèves au transiquet des orfèvres? 22-22, v'là les bleus tout dégueu. Cachez-vous les rabza et les niqueux. 22-22, v'là les équipe de France, les bleus. 17-17, sort la nice. 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17-17, sort la nice. 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17-17, sort la misère. Et quand leur syndicat nous vomisse, j'irai chanter justice en banlieue au bal de la police.
Radio Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit Canine, mais bon, on va dire Radio Canu.
Aux pistes de lointaines contrées. Suivez la reporter des camions info du mercredi dans le camion info.
Dans la la Stranja Bulgare, les barbelés rouillés de l'époque de la dictature communiste, destinés à empêcher la population de quitter cet enfer, côtoient les murs neufs érigés par l'Union européenne pour endiguer le mouvement inverse et l'arrivée de réfugiés venus de la frontière turque. La Bulgarie s'est vue refuser l'entrée de l'espace Schengen en février dernier en raison du trop grand nombre de réfugiés qui arrivaient dans le pays. Une bonne raison pour le gouvernement provisoire pour durcir une frontière déjà archi-militarisée. Fin mars, on apprenait que la Commission européenne se préparait à donner plus d'argent à la Bulgarie pour contrôler cette frontière. Mais la police bulgare qui quadrille les forêts de la Stranja se distingue pour ses mauvais traitements, sa violence, les vols, les refoulements, les viols et les refus de dépôt de demande d'asile.
I'm evil, but shorter is evil, it is your evil. I'm a psychologist and work in Bulgaria in the social sphere from 15 years. And I work for Mission Wings. This is new foundation from 2018.
Je m'appelle Ivo, je suis psychologue et je travaille dans le social en Bulgarie depuis 15 ans. Je travaille pour Mission Wings, qui est une fondation créée en 2018 et qui essaie d'aider les personnes les plus précaires, et notamment les réfugiés qui viennent de la frontière turque. Nous nous trouvons ici à Stara Zagora, une ville moyenne au centre du pays, mais on travaille aussi avec les réfugiés dans la ville de Harmanli, qui est plus proche de la frontière turque. Dans cette ville, il y a un grand camp de réfugiés. Je crois que c'est le plus grand dans tous les Balkans. Il y a environ 2000 personnes là-bas. Et pas très loin de cette ville, il y a aussi celle de Lubimets, où il y a une sorte de prison, où sont enfermées les personnes qui ont été prises à franchir illégalement la frontière. Elles sont enfermées là pendant 14 jours, puis elles sont transférées dans un camp. Bien sûr, l'État n'appelle pas cela une prison, le nom officiel c'est maison. Mais en réalité, c'est exactement comme une prison. Les personnes là-bas sont enfermées et n'ont pas le droit de sortir. Si leur demande d'asile a été refusée, ils sont également renvoyés dans cette prison pour 18 mois. Et après ce délai, s'ils ne retournent pas dans leur pays d'origine, ils sont libérés, mais sans aucun droit. Il y a 5 camps de réfugiés en Bulgarie. La plupart d'entre eux sont d'anciens baraquements militaires de la dictature communiste, et ce n'est clairement pas le meilleur endroit où vivre pendant plusieurs mois ou années, comme c'est parfois le cas pour les réfugiés. La plupart du temps, il y a 5 ou 6 personnes dans une chambre.
And there is not the best place for living, or if you live there for few years, this is not the best place. In some of these builds are 4, 5, 6 people in one room. This is not short border. This is long border or long distance, and there is different areas. But the most of them are mountains and woods.
La frontière entre la Turquie et la Bulgarie est assez longue, avec différentes géographies, mais la majorité sont des montagnes et des forêts. Il y fait très froid l'hiver. Le long de la frontière, il y a un mur de barbelés et les patrouilles de la police aux frontières sont omniprésentes. Nous savons aussi que certains, parmi la police aux frontières, collaborent avec les réseaux de passeurs pour se faire de l'argent sur le dos des réfugiés, parce que c'est une frontière beaucoup trop surveillée pour qu'autant de personnes puissent la franchir sans l'aide de la police. Mais le quotidien de cette frontière, ce sont les pushbacks. La police des frontières bulgares mène une véritable traque et on a de nombreux cas de violence et de reconduite immédiate en Turquie, tout cela étant bien sûr illégal. Les témoignages que l'on recueille des personnes réfugiées montrent essentiellement de mauvais traitements. Parfois ils sont frappés, on leur retire leurs vêtements, des chiens sont utilisés contre eux, on reçoit beaucoup de personnes avec des morsures. Il y a aussi des cas où la police leur tire dessus. On essaie d'alerter les institutions sur ces pratiques. On a fait un travail important avec un groupe de journalistes pour enquêter dessus. L'enquête est sortie en décembre 2022 et a mis en lumière les mauvais traitements, dont des cas de détention illégale, sans eau ni nourriture pendant plusieurs jours. Ces mauvais traitements expliquent que les personnes qui franchissent la frontière ne veulent pas entrer en contact avec la police et aller dans les camps. Il y a même des cas de pushback depuis l'intérieur des camps. C'est pourquoi, plutôt que de s'adresser à la police, beaucoup de réfugiés viennent directement vers nous. Ces derniers mois, on a eu beaucoup de cas où les réfugiés viennent nous voir directement pour demander de l'aide. Certains sont blessés, certains ont passé plusieurs jours dans la forêt ou dans la montagne. D'un côté, c'est une route migratoire de plus en plus empruntée, et le nombre de pushbacks a beaucoup augmenté ces derniers temps. Mais d'un autre côté, grâce aux enquêtes des journalistes, les institutions ne peuvent plus s'en cacher. Ils ne peuvent plus enfouir la tête dans le sable comme des autruches. Ils doivent réagir. Et il y a un bon début avec une enquête ouverte sur la police des frontières. Certaines personnes ont été renvoyées et vont avoir certainement des poursuites judiciaires. Donc ça, c'est la situation maintenant. Mais c'est difficile pour une organisation comme la nôtre parce qu'en parallèle de ces quelques enquêtes sur les violences, l'État nous stigmatise et nous fait passer pour des trafiquants et des passeurs. Ça nous crée des problèmes, mais c'est normal parce que personne n'aime que l'on sabote son travail, et dans un sens, quand on essaie d'aider les réfugiés, c'est en conflit avec les stratégies des institutions. On a pu voir une nette différence de traitement avec les Ukrainiens.
Our prime minister says this is different. There are different refugees, not like the
Quand la guerre a commencé, le premier ministre a dit qu'ils étaient des réfugiés différents, pas comme ceux qui franchissent la frontière turque. Ce qui était évidemment révoltant. Le gouvernement a mis les Ukrainiens dans des hôtels au début de la guerre, et puis les a mis dehors parce que la saison touristique commençait. Tout a été très improvisé, sans organisation. Donc au début de la guerre, une grande partie de la société bulgare a essayé d'aider les réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, plus d'un an après, la situation est différente. Pour certains, ça commence à faire beaucoup. C'est délicat parce que nous avons ce passé avec la Russie, et pour beaucoup de Bulgares, la Russie est toujours considérée comme le pays mère. Il y a toujours beaucoup de propagande russe, et beaucoup commencent à penser que finalement, dans cette guerre, la Russie a raison, et commencent à rejeter les Ukrainiens qui vivent ici.
They are bad, and this is the reason why we are not so friendly to Ukraine.
Canu Info.
Et pour finir, on part faire un tour du côté de Mayotte. Et c'est Mediapart qui a recueilli le témoignage d'un jeune de 17 ans qui a reçu une balle dans le mollet jeudi 27 avril. Je le précise, dans le cadre bien sûr de l'opération Wambushu. Et c'est alors qu'il traînait tranquillement dehors vers 22h sur le plateau de Doujny 2. La police commence à gazer les alentours. Et pour ne pas être incommodé par les gaz, il s'éloigne vers un banc un peu plus loin, accompagné de sa bouteille de vodka. Peu de temps après, Kaïl entend des cris et c'est à ce moment-là où il s'avance pour voir ce qu'il se passe et se prend une balle dans le mollet. Étant un peu alcoolisé, il ne sent pas la douleur immédiatement et c'est seulement en constatant la quantité de sang sur son pantalon qu'il comprend qu'il a reçu une balle. Il vérifie si ça n'a pas touché l'os et constate qu'il y a un trou pour l'entrée de la balle et un trou pour la sortie de la balle. Il parvient à faire du stop pour se rendre à l'hôpital, mais arrivé sur place, il prend peur, il craint d'être signalé à la police et d'avoir des problèmes, même si il affirme ne pas avoir participé aux affrontements avec la police. Il s'en va donc des urgences et rentre chez lui en stop avant d'être soigné. Or, dans la nuit, il est pris de douleurs atroces et se résout donc à retourner à l'hôpital. Entre-temps, la police avait eu vent d'une blessure par balle à l'hôpital et comme lors de son premier passage aux urgences, il avait communiqué son nom à l'accueil, des policiers de la BAC ont tenté de le cueillir chez ses parents sans savoir qu'il était retourné à l'hôpital. Et c'est donc à l'hosto que Kaïl s'est choper et placé en garde à vue pour 20 heures. Ils ne l'ont bien évidemment pas cru sur sa non-participation aux affrontements et après l'avoir menacé de s'en prendre à ses parents en les expulsant aux Comores, il est poursuivi pour participation à un attroupement armé et placé sous contrôle judiciaire. Il a depuis de grosses douleurs aux jambes et a du mal à marcher sur sa jambe blessée. Dans le même article, une autre personne témoigne de harcèlement et de violences policières qui ont lieu sur l'île en ce moment. Il raconte avoir été plusieurs fois tabassé par la BAC en montrant des cicatrices sur ses bras avant l'opération Wambushu. Moussa, la personne qui témoigne, dit n'avoir jamais vu autant de policiers quand ils nous tabassent comme ça. Ils partent et nous laissent, ils nous emmènent même pas en garde à vue. Je le cite, et une fois, ils m'ont montré une balle réelle et m'ont dit « tu vois ça ?» Moi, je vais te tirer dessus avec. Je n'utilise pas de flashball. À cela s'ajoutent bien évidemment les insultes racistes et les jeunes concluent qu'ils ne tireraient jamais à balles réelles comme ça en métropole. Effectivement, Mayotte est une exception sur bien des plans. Depuis 2018, un régime dérogatoire permet par exemple aux policiers d'effectuer des contrôles d'identité partout, tout le temps. Si sur le reste du territoire, une telle pratique est jugée anticonstitutionnelle, elle a tout de même été validée par le Conseil constitutionnel au nom de la, je cite, « spécificité géographique du territoire ». Un argument, nous dit le journal Afrique 21, venu de l'époque coloniale. Et bien voilà, il est 19h46 et c'est la fin de ce Canu Info. Est-ce qu'on a un petit agenda ou on n'a pas de petit agenda ?
On n'a pas de petit agenda et j'étais en train de regarder s'il y avait des nouvelles d'un éventuel rassemblement de casseroles qui aurait expliqué la police et rien sur
rien. Et ben en tout cas, si vous voulez connaître les rendez-vous, les prochains rendez-vous, par exemple, quand même, on peut en scrutant rébellion, on peut voir que jeudi 4 mai à 18h à la Bourse du Travail se tiendra l'AG du comité de lutte. Et vendredi 5 mai, soirée de soutien à la caisse de grève féministe à l'illégalité à 20h. L'illégalité, c'est à Villeurbanne. Jeudi 6 mai, 14h, place Bellecour, une manifestation régionale contre la réforme des retraites et la vie chère. Voilà, en gros, mais tenez-vous au courant, suivez l'agenda de Rebellion et vous serez informé de toutes les actualités comme il se doit. En attendant, on vous laisse avec quelques minutes de bande continue et nous on se retrouve la semaine prochaine et à 20h vous retrouvez l'émission Idées Noires. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info.